Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jaudard le 9 août 1988.
Excusez le retard. Le téléphone est toujours très indiscret. On a beau dire qu'on a un cours, c'est des choses absolument urgentes et donc on est cloué. Nous allons continuer, puisqu'il n'y a pas de questions, j'ai vu que vous avez bien dormi. Quand on aurait eu des questions, on va continuer l'effort d'hier au soir, si vous vous souvenez. Voir comment, dans une philosophie réaliste, alors essayer de bien comprendre ce que représente une philosophie réaliste. Le point de départ, l'expérience. Oui, parce qu'il peut y avoir des philosophies qui commencent par l'intuition. Platon. Le néoplatonisme. C'est les philosophies de l'intuition. Où ça commence par un rêve. Descartes. Cogito. C'est pas l'expérience, c'est l'expérience interne, cogito, mais il dit pas que cogito, je pense à moi. En réalité, c'est lui. Mais il ne le dit pas, cogito. On pense à n'importe quoi. Ce n'est pas une expérience de penser à n'importe quoi. C'est un rêve. Parce qu'une expérience de la pensée, c'est toujours la pensée de quelqu'un ou de quelque chose. Donc le cogito, comme il est, c'est un rêve. Rien de plus certain que c'est que je pense. Tout le reste est très incertain. Vous voyez, c'est toujours très important. Il y a un livre intéressant, Le point de départ de la métaphysique, par le père Maréchal. Un père jésuite de Louvain. C'est un très beau livre. C'est une manière très, très belle de voir le point de départ de la connaissance philosophique en Occident. Ce qui est intéressant, quand vous lisez un auteur, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est son point de départ, sur quoi il s'appuie, quel est son fondement. C'est ça qui est important à saisir, sur quoi il s'appuie. On s'appuie sur l'expérience. Et l'expérience externe. Oui, l'homme est trop faible pour s'appuyer que sur lui. Le roseau pensant est trop faible. Il doit s'appuyer sur autre chose, un autre. Même si cet autre est beaucoup plus petit que lui. Il s'appuie sur une canne, sur l'expérience. Oui. Parce que au-delà de la vie, il y a l'intelligence qui est capable d'atteindre l'autre. Parce que le vivant ne s'appuie que sur lui. C'est le propre du vivant. Il a son autonomie. C'est pour ça que toutes les philosophies qui sont uniquement fixées sur la vie ne s'appuient que sur une expérience interne. Donc, la grosse question, c'est, on est obligé d'aller assez vite là-dessus, mais il faut au moins se poser la question quand on lit un philosophe. Quel est son point de départ? Sur quoi il s'appuie? Étant donné que la philosophie doit être la chasse à tous les a priori. Un philosophe ne doit pas avoir d'a priori. Un philosophe doit respecter l'expérience. Et il doit aussi comprendre quel type d'expérience il y a. L'expérience clinique n'est pas l'expérience tout court. Parce que vous conditionnez l'individu et vous voyez ses réactions. Ce n'est pas l'expérience tout court. Donc vous devez déjà présupposer que cet individu est dans une cage à lapin et dans tel ou tel endroit et il réagit de telle manière parce que vous l'avez piqué sur tel nerf et il réagit comme ça. Bon, très bien. Autrement, normalement, il ne réagit pas comme ça. Quand vous lui donnez la main, ce n'est pas la même chose. Et quand il n'est pas conditionné ou super conditionné réagit autrement. C'est très important, ça. L'expérience, c'est pas n'importe quoi. Il faut toujours préciser. Donc, le point de départ, l'expérience, ceci est, qui est au-delà de toute expérience. Et je pars de ce jugement d'existence. Et c'est à partir de là qu'apparaît l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Très important, Heidegger est resté devant cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et pour lui, la chose la plus importante, c'est l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est vrai que c'est très beau. Interroger, c'est très beau. Quand un enfant interroge, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Je dis beau, je dis pas vrai. Parce que l'interrogation, c'est le moment où l'intelligence connaît quelque chose et elle va aller plus loin. Donc, il y a tout un aspect de beauté qui est inclus dans l'interrogation. Je comprends très bien qu'Heidegger s'arrête à ça, en disant que c'est ce qu'il y a de plus grand. Se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Il faut réfléchir, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors l'être, quelle est la signification de l'être ? L'être n'est pas le bien, l'être n'est pas le vrai, l'être n'est pas l'un. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez, on n'a pas le temps, mais posez-vous la question aujourd'hui, honnêtement. Et puis essayez de répondre. Heidegger reste devant l'interrogation. Ça, c'est ce qu'il y a de plus grand. Il ne faut surtout pas répondre. C'est très curieux, du reste. Vous ne doutez jamais de l'intelligence de quelqu'un quand il interroge. Vous commencez à en douter quand il répond. C'est un truc pour les examens. Si vous avez assez de culot, interrogez votre maître qui vous interroge. Surtout, ne répondez pas. Comme ça, il ne pourra jamais vous trouver en dessous de ce qu'il attendait de vous. Vous interrogez. Oh, ce qu'il est intelligent. Il interroge. Qu'est-ce que c'est que l'être ? On reste suspendu à ça. Et toi, Heidegger, reste suspendu. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Si je veux répondre, je n'ai qu'une seule voix. Je reviens au jugement d'existence. Ceci est. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est parce que le premier moment de la philosophie première de la métaphysique, c'est partir du jugement d'existence. Ceci est. Qu'est-ce l'être ? Jugement d'existence. Interrogation. Interrogation, on décolle. C'est évident, le moment le plus intéressant quand vous êtes en avion, c'est pas le ronronnement du moteur, très très fort, le moment où vous décollez. Il y a un moment de silence. Tout le monde est suspendu. On décolle. Ça, c'est l'interrogation. Quand vous interrogez, vous décollez. Par rapport à ceci est. Ceci est, vous adhérez à la réalité. Et pour Heidegger, on colle aux étangs. Tandis que quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être, je décolle. Je comprends très bien, hein, dans une certaine vision esthétique, ces deux moments, c'est très intéressant. Ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, toute la question, je vous l'ai dit, parce que je crois que c'est important d'y réfléchir, toute la question est de savoir si la signification de « est » est la même que celle de « être ». Voilà le gros problème. C'est là où vous avez deux orientations tout à fait différentes. quand vous dites ceci est, est-ce que c'est la même chose de dire ceci est ou ceci? À Fribourg, on a discuté pendant un an avec un autre professeur qui était dans des perspectives très différentes pour savoir si c'était la même chose, ceci est ou ceci tout court. Moi, je soutenais que ce n'était pas la même chose et lui soutenait que c'était la même chose. C'est intéressant. Autrement dit, il n'avait jamais dépassé ceci. Il n'avait jamais compris, quand je dis « ceci est », l'intelligence affirme autre chose que ceci. Ceci. Vous voyez, c'est très élémentaire, hein, la philosophie. Mais c'est justement ces choses très élémentaires qui commandent tout. Le « ceci ». Ceci implique une détermination. Pratiquement, c'est la forme. Et c'est l'exister. Vous voyez, fameux problème, essence-existence. Hein, vous trouvez ceci. Et ceux qui ramènent l'existence à l'essence disent qu'entre ceci est et ceci, c'est la même chose. Parce que vous pouvez considérer dans ceci est le est relatif à ceci, vous pouvez faire l'inverse. Curieux. C'est vous réfléchir là-dessus. Vous pouvez réfléchir toute la journée là-dessus. À la fin de la journée, je ne sais pas où vous serez, mais vous aurez peut-être compris. La forme, la détermination, ceci. L'essence, c'est une détermination. Ceci, ça peut être l'homme, la vache, le chat, le chien, la table, la montre, tout ce que vous voulez, vous, ceci, vous êtes un ceci. Mais vous existez. Et en tant que vous existez, vous êtes unique. En tant que ceci, non, interchangeable. C'est vrai, ceci, la détermination. Tandis qu'en tant que vous existez, ah, vous êtes unique. Vous pouvez pas dire l'existence de mon voisin, c'est la même que la mienne. Vous êtes individuel, vous êtes unique. Vous êtes en dehors de moi. Tandis que ceci, je peux le posséder. Oui, oui, je pense à ceci. Je cogite ceci. Bon, c'est le point de départ, ça. Alors, la grosse question, est-ce que la signification de « est » égale « exister » existe et « être » est la même? Ça n'a l'air de rien, et c'est capital. Au point de vue langage, ici, je suis au présent. Ici, je suis à l'infinitif. Mais c'est le même verbe. C'est le verbe être. Mais comme c'est curieux, la métaphysique regarde le verbe. C'est pas ceci, c'est le verbe. Et je fais du verbe un nom. Vous avez la possibilité, au point de vue grammatical, de faire que le verbe, qui normalement est relatif au nom, d'en faire un absolu. Ceci est l'être. L'être, la forme, l'infinitif, absolutisme, le verbe. Qui lui est normalement relatif. Alors on dira thématiser dans le langage moderne. Je thématise le verbe au présent par l'infinitif. Alors vous voyez, toute la question, c'est de savoir si est au présent a la même signification que être. Au point de vue du langage, vous pouvez tout de suite me répondre, hein. Le gosse qui pose à sa maîtresse, qui commence à lui apprendre un peu à parler, qui pose la question, mais est-ce que « est » a la même signification que « être » ? Que répondra la maîtresse ? gros bêta, c'est bien évident. C'est le même verbe. C'est le même verbe. Le verbe au présent, le verbe à l'infinitif, le verbe au... C'est le même verbe. Ce sont des modalités différentes, mais c'est le même verbe. Donc, si c'est le même verbe, il y a la même signification. Et ça, c'est vrai, dans le langage, c'est très vrai. Le langage est un signe. Pas plus, hein. Je ne fais pas la philosophie du langage. Ça se fait aujourd'hui, mais je veux aller plus loin, parce qu'on ne discute pas sur la question du langage. Mais c'est un signe. Je vais aller plus loin. Ce signe indique quoi? Que l'intelligence saisit dans le ceci qui existe l'être. Et que l'intelligence est capable d'abstraire, je dis bien d'abstraire, de séparer le verbe être de son support. Ceci. C'est prodigieux comme truc. Vous voyez, l'intelligence, elle est capable de faire ça, et je ne m'en aperçois pas. Je fais ça, je ne dis pas machinalement, mais instinctivement. Vous voyez, la première, cette espèce d'abstraction qu'il y a, ce passage de « est » à « être ». C'est très très important, ça. Quand on réfléchit là-dessus, on voit que l'intelligence, quand même, est capable de faire quelque chose d'assez particulier. Alors, pour mieux le comprendre, prenez un autre exemple, parce que être, prenez blanc. Blancheur. C'est l'exemple classique. Blanc, blancheur. Pure pureté, le passage du concret à l'abstrait. Pierre est blanc, le mur est blanc. La blancheur. Vous avez isolé. Vous voyez, isolé blanc. Et blanc n'est plus relatif. Procédé de l'intelligence capable de thématiser. Isolé. Oui, c'est une analyse. Le mur est blanc. Le visage est blanc. Le ciel est blanc. Ce vêtement est blanc. Quelques petites taches, mais il est blanc. Vous séparez. Et on fait ça instinctivement. Regardez dans le dictionnaire. Un petit dictionnaire. Cherchez blanc. Cherchez blancheur. Qu'est-ce qu'on dira blancheur? Un bon dictionnaire définit blancheur par blanc. Un mauvais dictionnaire définit blanc par blancheur. C'est curieux ça, hein? Vous avez un, deux. Qu'est-ce que vous connaissez le mieux? Blanc ou blancheur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, bonne colle. Qu'est-ce que vous connaissez mieux? Blanc ou blancheur? On verrait tout de suite, si on pouvait le faire, je dirais, allez, ceux qui vont dire blanc, blancheur, je connais mieux blancheur. Puis ceux qui disent que c'est blanc, on verrait tout de suite, hein. Je ne vous le dis pas d'avance, parce que par avance, vous choisiriez. On verrait tout de suite les idéalistes et les réalistes. Et voyez pourquoi. L'idéaliste dira qu'il connaît mieux blancheur. Et le réaliste dira qu'il connaît mieux blanc. Blanc, vous l'expérimentez. Blancheur, non. Vous l'imaginez. Vous imaginez la blancheur. Vous savez la réclame. Vous imaginez. Tandis que blanc, vous ne l'imaginez pas, vous le voyez. J'ai vu différents blancs. Il y a des tonalités différentes. Vous l'expérimentez, donc vous le connaissez bien mieux. Blancheur, est-ce que vous connaissez Blancheur? Vous connaissez Blancheur à cause du blanc. Pourquoi ce besoin de passer du blanc à Blancheur? Pourquoi ça? Pourquoi ce besoin de passer du blanc à Blancheur? C'est quand même invraisemblable, ça. Et vous trouvez ça dans toutes les langues, sauf dans des langues très primitives, où pratiquement il n'y a presque pas d'abstrait. Le degré d'évolution d'une culture, c'est le passage du blanc à Blancheur. Et certaines cultures qui sont en train de planer et qui planent, alors ne voient plus que la blancheur. Oui, vous voyez des applications politiques extraordinaires. Les partis politiques, c'est blanc. Et quand ils sont au pouvoir, c'est blancheur. Vous avez tout compris? C'est très curieux, ça. Et je ne réfléchis pas du tout. Tout ça. Mais oui. Mais vous voyez pas, vous êtes en train de planer. Blancheur. Vous n'avez jamais expérimenté la blancheur. Jamais. Peut-être dans un rêve, dans un cauchemar. Je me souviens, c'était des amis qui avaient fait ça. Méchamment, ils ne m'avaient pas demandé conseil, heureusement. Je n'en porte pas la responsabilité. Ils disaient qu'il y avait une maison qui était hantée. Alors l'autre, tu ne sais même pas du tout, c'est de la blague, elle est hantée. Mais je t'affirme, elle est hantée. Alors ils ont joué au spectre, à la blancheur, la nuit. Parce que la blancheur, ça se voit la nuit. C'est pas pendant la journée. Un jour au spectre. Elle dit pas, elle a perdu la tête. Quand vous êtes en face de l'expérience de la blancheur, vous planez tellement, vous ne remettez plus les pieds sur terre. Parce que c'est ça, perdre la tête, hein. C'est de passer blanc à blancheur. Alors, vous voyez, faites l'application au point de vue politique. Donc, vous voyez que, comme tel, le point de vue du blanc, c'est concret, j'en ai l'expérience. Blancheur, j'en ai plus l'expérience. Retombez sur vos pieds, ceci est, j'en ai l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'être? J'en ai pas l'expérience. Je comprends que Heidegger, qui sépare et être, puisque pour lui, et, c'est les étangs. Les étangs, je dois les nier pour qu'apparaisse l'être. Et l'être, je plane. Et donc, je reste devant l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Et reste indéfiniment, parce que je n'ai pas l'expérience. Et donc, quand vous posez l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et que vous voulez savoir ce que c'est que l'être, vous n'avez qu'une seule ressource. C'est de revenir à l'intelligence qui pose « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Quand je dis « qu'est-ce que c'est que l'être ?» c'est mon intelligence. Puisque je n'ai pas d'expérience de l'être, qu'est-ce que je vais faire pour le connaître? Je vais revenir à l'intelligence qui interroge. Et donc, la signification de l'être se prendra de l'intelligence qui interroge. C'est l'intelligence qui va me faire découvrir ce que c'est que l'être. Tandis qu'au contraire, si je sais que blancheur, j'en ai pas l'expérience, et donc la signification de blancheur, c'est blanc, l'être, j'en ai pas l'expérience, je reviens à ceci est. Et c'est l'expérience du ceci est qui me donne la signification de l'être. Vous voyez, vous avez là un tournant extrêmement important pour comprendre ce qu'est une pensée réaliste et une pensée qui idéalise. Vous pouvez faire des quantités d'applications, vous verriez ça. J'insiste parce que ça, c'est capital. Vous comprenez? Une métaphysique réaliste revient toujours au jugement d'existence. Ceci est. Vous voyez, ça, il faut reconnaître que Kant a très bien compris ça. Et c'est le fond de sa critique. Le fond de sa critique, c'est le texte sans Thalère, C'est pas la même chose que l'existence de sans salaire. Ceci égale 100 francs. Oui, est-ce qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas? Ben, quand vous allez acheter quelque chose, vous dites, je pense à 100 francs, c'est suffisant. Je pense. Je vous les donne. Mais c'est un drôle de cadeau. C'est ceci. Ah, pour que ce soit intéressant, il faut les montrer qu'ils existent. Et on a besoin de les toucher. Autrement, je ne peux pas. Donc, une fois que j'ai compris ça, je vois que la métaphysique sera de chercher ce qu'est l'être à travers le ceci-est. Voilà une philosophie métaphysique réaliste. Alors que la philosophie idéaliste, ce sera de rechercher ce qu'est l'être à travers l'intelligence qui interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Il y avait là les deux cheminements. C'est important de les voir parce qu'on vit de ça. Je côtoie tout le temps des idéologies. L'idéologie, c'est de dire que l'être, je puise sa signification dans mon intelligence qui a forgé l'être. Et c'est vrai. C'est mon intelligence qui a forgé l'être. J'avais vu un être qui se baladait comme un ver à mille pattes. J'avais vu l'être se promener. Jamais. Vous voyez des réalités qui se promènent. Lévité. Donc, c'est l'intelligence qui a forgé l'être. C'est vrai. C'est mon intelligence qui a donné à l'être, au verbe être, cette forme de l'infinitif. C'est curieux que l'infinitif est à la racine de tout l'idéalisme et de toutes les idéologies. Vous voyez, quand j'ai dit que c'est l'intelligence qui a forgé l'être, attention, elle ne l'a pas créé ex nihilo, à partir de rien. Non, elle l'a forgé à partir de ceci. Et donc, je dois préciser, l'intelligence a forgé une manière particulière de se présenter. L'être se présente de façon abstraite, où l'être est saisi dans la réalité. Mais l'être, ce n'est pas l'intelligence qui l'a forgé. Non, elle l'a saisi à partir de l'expérience. Ce qu'elle a forgé, c'est une manière particulière de présenter l'être. Une manière particulière de dire l'être. Ah ça oui, elle l'a forgé, elle l'a fait. Mais pas la signification de ce qui est. La signification de l'être provient du jugement d'existence ceci est. Donc vous voyez que la confusion de l'idéalisme, c'est saint Thomas qui dit ça. Il dit ça à propos des néoplatoniciens. Et ça reste vrai, ça reste vrai pour tous les idéalistes. La confusion de l'idéalisme, c'est de croire, parce que je forge le cadre, je forge le tableau. C'est très gros comme confusion. Mais c'est exactement ça. L'intelligence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réalisé, elle a forgé, elle a réalisé, elle a créé une manière particulière de se présenter l'infinitif. C'est vrai, l'infinitif n'est pas le présent. D'autre chose, l'infinitif n'est pas le présent. L'intelligence a forgé l'infinitif à partir du présent. Toujours ça. Tous les philologues reconnaîtront ça. La forme du présent, la forme du passé et du futur est antérieure à l'infinitif. L'infinitif, c'est déjà très élaboré. C'est l'intelligence qui forge ça. Donc une manière particulière de dire. Dire l'infinitif. Faire du verbe un nom. L'être. Est-ce que l'être existe? C'est extraordinaire de se poser la question. Est-ce que l'être existe? Alors que l'être, c'est l'exister. Oh, vous pouvez vous poser la question, est-ce que l'être existe? Et si je vous posais la question, est-ce que l'être existe? Qu'est-ce que vous répondriez? Vous diriez, mais l'être existe. Oui, il existe quand je le pense. Ah! Il existe quand je le pense. Et c'est très vrai. Sous cette forme infinitive, il n'existe que quand vous le pensez. Alors, de là à dire, l'être n'existe que quand je le pense. Je confonds la manière particulière de dire et ce que je dis. Ce que je dis. Ce que je dis, c'est l'être. Et la manière particulière de le dire, c'est l'infinitif. Je confonds les deux. Sa forme infinitive n'existe que quand je le pense. Et c'est moi qui le fais penser. Mais cette chose, c'est curieuse. Alors, pourquoi, ça il faut se poser la question, pourquoi l'intelligence fait ça? Et là, j'insiste un petit peu parce que c'est tellement important de voir la naissance de la philosophie première. La naissance de la métaphysique. Bon, Socrate disait que le philosophe, c'était une sage-femme qui était là pour faire accoucher l'intelligence. C'est exactement ça. Comment la métaphysique va-t-elle naître? Le passage, ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Tout de suite. Et vous voyez alors deux types de métaphysique. Une métaphysique qui reste idéaliste, donc qui reste une idéologie. Une métaphysique qui s'accroche au réel. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. À partir de là, on ne va pas faire toute la démarche et tout l'itinéraire de la métaphysique. À partir de là, nous allons analyser ce qui est. La métaphysique implique deux grandes analyses à partir de mes interrogations, puisque l'intelligence analyse à partir des interrogations. Or, il y a deux grandes interrogations. L'interrogation, qu'est-ce l'être? Et puis, en vue de quoi? L'être. Cette interrogation conduit à la découverte de ce qu'on appelle la cause selon la forme et ici la cause selon la fin. Donc, en philosophie première, vous n'avez que deux interrogations. Pourquoi? Parce que l'interrogation qui regarde la cause selon la matière, n'existe pas en métaphysique. Et l'interrogation qui consiste à découvrir la cause selon l'efficience n'existe pas en métaphysique. Et alors, pour bien comprendre ça, ça présuppose, je vous le dis tout de suite, ça présuppose avoir découvert qu'il y a quatre grandes interrogations. Ça, c'est le coup génial d'Aristote. Si on est aristotélicien, c'est à cause de ça. Aristote a découvert qu'il y a quatre grandes grandes interrogations. Il y en a une cinquième, parce qu'il y a toujours la cinquième roue du chariot. Et la cinquième roue du chariot, elle ne touche pas toujours terre. Il y a quatre et cinq grandes interrogations. Et à ces cinq grandes interrogations, il y a la découverte des cinq causes. On interroge pour découvrir la source. Le sourcier interroge. On interroge pour découvrir, on interroge pour analyser. Et on analyse pour découvrir la cause. Pour découvrir ce qu'il y a de premier. Pour découvrir ce qu'il y a d'irréductible. Ce qui résiste à toute analyse. Et ce qui résiste à toute analyse, c'est la cause. C'est le principe. C'est l'au-delà de tout divisible. Alors, les quatre causes, je les répète très rapidement, même si vous les connaissez très bien. En quoi ? Qu'est-ce ? D'où cela vient ? D'où le cela, ça vient-il ? En vue de quoi ? Sur le modèle de quoi ? Et à chacune de ces interrogations, je découvre une cause. Une cause propre. La cause matérielle, la matière. La matière en tant que cause. C'est-à-dire en tant qu'elle résiste à l'analyse. Je découvre la forme. Je découvre la source efficiente, la cause efficiente. Je découvre la fin, je découvre la cause exemplaire. Les cinq causes. Je vous donne ça rapidement, je peux en faire plus. Mais c'est intéressant à comprendre toute la structure de la métaphysique. Et j'ai donc deux grandes pistes. La métaphysique va découvrir ce qu'il y a de premier dans l'être. Alors, n'oubliez pas que la métaphysique regarde toujours l'homme. Ne faites pas la métaphysique d'une feuille de papier. Vous comprenez pourquoi ? La feuille de papier, point de vue ontologique, pas grand-chose. Ça pèse pas lourd. Métaphysiquement, ça pèse pas lourd, une feuille de papier. Donc ne cherchez pas à partir d'une feuille de papier ce que c'est que l'être. Cherchez-le à partir de vous-même, c'est beaucoup mieux. Parce que vous êtes quand même la réalité existante principale pour vous. Donc vous êtes plus intéressé à vous qu'à votre voisin, métaphysiquement parlant. Et c'est plus facile de vous saisir que de saisir votre voisin. Parce qu'au moins vous pouvez vous toucher sans faire gare au voisin. Je te touche pour savoir ce que c'est que ta cause. Mais je réveille l'autre pour savoir ce que c'est. Non. Alors, il y a les deux grandes, vous voyez, au plan métaphysique. Pas de recherche de la matière. Il n'y a pas de cause propre de la matière. Pas de recherche de la cause efficiente. Pas de recherche de la cause exemplaire. Donc, il reste uniquement les deux. Je découvre ici la forme première qu'on appelle la substance. Aujourd'hui, il vaut mieux l'appeler en grec. Ça vaut mieux. Ousia. Et ici, je découvre la cause finale, c'est-à-dire l'être en acte. Voilà. La métaphysique, analyser ce qui est. Les interrogations et grâce aux interrogations par un procédé intellectuel de l'induction je découvre les causes, tout ceci pour me permettre en définitive de découvrir ce qu'est la personne. Je pourrais dire que toute la métaphysique c'est de découvrir l'absolu de la personne. La personne comme un tout. Découvrir ce que c'est que la personne. Et toute la métaphysique est ordonnée à ça. C'est pour ça que ne quittons pas la personne humaine. J'ai l'immense avantage, c'est que ma personne est là présente toujours. Je ne peux pas la mettre à la porte. Et donc, je peux tout le temps réfléchir sur ce que c'est que la personne humaine. Et toute la métaphysique est ordonnée à connaître ce qu'est la personne. Une fois que j'ai découvert ce que c'était que la personne, point de vue métaphysique, l'autonomie de la personne, cette substance individuelle qui est capable d'atteindre l'infini, cette ouverture vers l'infini, on peut définir la personne comme ça. La personne, un foulecan. Et une personne qui serait mesurée ou uniquement mesurable, ne serait plus une personne. Il y a quelque chose d'infini dans la personne. Quelque chose. Je ne précise pas. Quelque chose. Ce qui explique comment l'intelligence humaine, dans la personne humaine, cherche tout le temps. Je ne peux jamais m'arrêter. C'est ça l'immense avantage de la philosophie. Qui aboutit à la personne, je ne peux pas m'arrêter. Ce n'est pas parce que je dis que la métaphysique se termine à la personne que je sais ce que ça veut dire. Je m'aperçois que la personne humaine, c'est l'être le plus parfait, le plus fondamental, le plus substantiel que je peux saisir. Je ne peux pas saisir une réalité plus parfaite que l'homme. Et c'est pour ça que toute ma métaphysique, tout mon effort, c'est d'essayer de saisir cette personne humaine. Une fois que j'ai saisi ce que c'était que la personne humaine, je me pose la question, est-ce que la personne humaine est l'être absolu? Selon les traditions religieuses, est-ce que la personne humaine est Dieu? Les traditions religieuses me parlent de Dieu, me parlent d'un Dieu créateur. J'ai parfaitement le droit de me poser la question, est-ce que la personne humaine est-elle divine? Est-elle l'être parfait? Est-elle l'être premier? Vous voyez le problème, important. Ici, c'est un nouveau départ. Un dépassement de la métaphysique. Et je m'aperçois assez vite que la personne humaine ne peut pas s'identifier à l'être absolu, ne peut pas s'identifier à Dieu, au Créateur. Pourquoi ? Parce qu'elles sont multiples. Les personnes humaines sont multiples. J'ai à côté de moi une personne humaine. C'est très gênant. C'est pour ça que l'autre, c'est l'enfer. Vous voyez ? Parce que l'autre me montre que je ne suis pas Dieu. C'est très gênant d'avoir quelqu'un qui tout le temps me montre que je ne suis pas l'absolu. Je ne suis pas l'absolu. S'il n'y avait personne, j'étais seul, je pourrais dire, ah ben nous, je suis peut-être absolu. Vous voyez, le multiple joue ce rôle très important de montrer je ne suis pas l'absolu. Donc, je ne suis pas l'être en sa totalité. La personne est un tout, mais elle n'est pas l'être en sa totalité. Elle n'est pas l'être premier. Alors, je peux me poser la question. Existe-t-il un être premier? Qu'est-ce que c'est que cet être premier? Est-ce que je suis capable d'atteindre cet être premier? des questions qui se posent par rapport à cette découverte ultime. Je dis bien la découverte ultime. Est-ce que je peux dépasser l'absolu de ma propre personne? Ce serait très gênant de dire que je ne peux pas dépasser l'absolu de ma propre personne. Vous comprenez très bien, puisque je ne pourrais jamais saisir l'autre comme autre. Je ne pourrais le saisir qu'en fonction de moi. Alors, est-ce qu'il y a encore un amour? Si je saisis l'ami uniquement en fonction de moi, est-ce que c'est encore l'ami? L'ami, il faut le saisir pour lui-même. Donc, il faut saisir l'autre pour lui-même. Autrement, je ne le saisis pas vraiment. En lui-même. Vous voyez, tout le problème de la philosophie heideggerienne, c'est de savoir si on peut saisir l'autre. Problème de Lévinas. Est-ce qu'on peut saisir l'autre? Si je ne peux pas saisir quelque chose qui me dépasse, je ne saisis jamais l'autre. Alors voyez, là, le point de départ est très important. Le jugement d'existence me met en présence d'un autre qui me transcende, qui me dépasse. Et donc je peux saisir l'autre. Est-ce que je peux savoir ce qu'il est? Ça, c'est différent. Alors, existe-t-il un autre absolu? Et qu'est-ce qu'il est? Mais les deux questions se tiennent. Existe-t-il un être absolu? Qu'est-ce qu'il est? Je pourrais dire tout de suite, nécessairement, il existe un autre, puisque j'existe, et que je respecte cet autre. Ça, je crois qu'on peut le dire tout de suite. Toute multiplicité existante réclame un premier. Presque la cause exemplaire, oui, ça. Multiplicité existante réclame un premier. Mais qu'est-ce que c'est que ce premier? Et comment le saisir? Et c'est pour essayer de préciser ce qu'est ce premier que je vais essayer de voir quelles sont les voies d'accès qui me permettent de l'atteindre. Parce que dire il existe nécessairement un autre au-delà de cette multiplicité que je constate, c'est purement négatif. Je ne sais pas du tout quel est cet autre. Tandis que par les voies d'accès, il y a quelque chose de positif par rapport à cet autre. Alors c'est là où on a élaboré, où saint Thomas a élaboré les cinq voies. Et vous voyez, je les reprends dans un contexte totalement différent de saint Thomas. Je les prends à partir de l'expérience que j'ai de ma propre personne. Et c'est à partir de l'expérience que j'ai de ma propre personne que progressivement je dévoile l'existence de cet être premier et les diverses manières pour moi de le saisir. Oui. En faisant cela, je dépasse le point de vue strict de la métaphysique pour découvrir ce qu'on appelle l'être premier, Dieu. Et je le découvre en fonction de ces cinq voies. Prenez l'exemple, tout simplement, des avenues dans une forêt. Il y a cinq voies. Vous allez me dire, pourquoi cinq? Cinq doigts de la main. Mais comme il y a deux mains, on devrait dire dix. Cinq voies. Pourquoi cinq voies? C'est parce que je ne peux dire quelque chose de cet être premier que grâce à la causalité finale. Or, il y a cinq manières de présenter cette cause finale. C'est à cause de ça. Cinq manières. La cause finale prise en elle-même. La cause finale liée à la matière. La cause finale liée à la forme. La cause finale liée à l'efficience. Et la cause finale liée La cause finale prise en elle-même, la cause finale prise liée à la matière, liée à la forme, liée à l'efficience, liée à la cause exemplaire. Vous avez donc les cinq manières, mais la cause finale est toujours présente. Vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Point de vue structure, vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Vous pouvez énoncer ça de mille façons différentes. Ça n'a aucune importance, mais c'est toujours le même levier de commande, le passage de la réalité en puissance à la réalité en acte. Le premier, il est en acte, sans aucune potentialité. Et c'est pour ça que c'est toujours en me servant de la causalité finale que j'aboutis. Cinq modalités. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Ce que je peux, c'est de comprendre que ces cinq modalités peuvent mettre un accent davantage sur l'intériorité ou sur l'extériorité. Alors à ce moment-là, je pourrais toutes les dédoubler et dire qu'il y en a dix. Et c'est vrai, il y en a dix. Cinq intérieurs s'appuyant sur cinq extérieurs. Et les cinq intérieurs n'aboutissent pleinement qu'en s'appuyant sur les cinq extérieurs. Ça, très bien. Dix modalités, dix voies d'accès pour saisir l'être premier. C'est très beau, les cinq. Puis un étage supérieur, c'est comme ça qu'il faut le voir, par la voie d'intériorité. Alors vous voyez, ça c'est un très gros problème. Ce n'est pas le problème directement de notre session, mais je le pose. Parce que si on ne le voit pas, on ne peut pas aller plus loin. Mais je le pose. Il y a 10 voies pour nous conduire à l'être premier. Mais dans ces 10, il n'y en a que 5 qui sont absolues, les autres sont relatives aux 5. peut dire 5 ou 10. Tout dépend comment vous comptez. Et c'est facile à comprendre. Ça, c'est l'expérience externe. Là, c'est l'expérience interne. Alors, vous pouvez regarder l'expérience interne en elle-même. Ça n'aboutit pas pleinement. Mais si vous regardez l'expérience interne liée à l'expérience externe, ça aboutit. Une fois que vous avez découvert cette existence d'une personne qui est l'être absolu, qui est l'acte pur, partant de la personne, vous aboutissez à la personne. Vous vous demandez quelle est la relation entre cet être premier et vous-même. Être premier, acte pur. Quelle relation entre cette personne que j'ai posée, que les traditions religieuses appellent Dieu. Je dis toujours bien, les traditions religieuses, le mot Dieu n'est pas philosophique. C'est un emprunt, comme le mot âme. Il y a deux mots qui ne sont pas philosophiques. Âme et Dieu. Mais le philosophe a le droit de reconnaître que la réalité ultime qu'il découvre, c'est bien le Dieu des traditions religieuses. Dans ce sens-là, il n'y a pas deux dieux, le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens. Parce que s'il y en a deux, il faut qu'il y en ait un faux. Quand je ne peux pas dire que c'est le Dieu des chrétiens, donc je dis que c'est le Dieu des philosophes. Il n'y en a pas deux, c'est impossible. On aboutit nécessairement à dire que cette personne première, absolue, ne peut être que Dieu. Alors, quelle est la relation de Dieu avec moi, existant ? Je suis. Quelle est cette relation ? Et dans la mesure où je découvre cette relation, je découvre progressivement cette relation de dépendance absolue de je suis avec le je suis. Et au point de vue philosophique, je mets ça entre parenthèses. Parce que je ne découvre pas le je suis. Je le découvre comme quelque chose de transcendant. Dans la mesure où je découvre cette relation de dépendance, je découvre le problème de la création. C'est grâce à ces dépendances successives que je découvre la création. Donc voyez comment le problème de la création se pose pour le philosophe. C'est au sommet de tout. Ayant découvert l'existence de l'être premier, il se pose la relation, quelle est la relation ? Il se pose la question, quelle est la relation entre le je suis et cet être premier ? Et il dit, cette relation, c'est une relation de dépendance qui provient d'une action à l'état pur qui est la création. Donc vous voyez le cheminement philosophique pour aboutir à la création. Le mot création provient des traditions religieuses et le philosophe peut l'employer, ou tout simplement, le philosophe peut dire qu'on est en présence d'un facere ultime. Se faire premier, faire premier, c'est le problème de la création. Ce que les traditions religieuses appellent création. Le mot création, encore une fois, n'a pas été inventé par les philosophes. La création du démiurge, c'est se fâcher à l'état pur, sans aucun. Alors, nous essaierons de réfléchir tout à l'heure, une fois qu'on est à pied d'œuvre, qu'est-ce que c'est que la création ? Pour le philosophe. Puis ensuite, nous reviendrons à la théologie pour voir s'il y a une différence entre les deux. Plutôt de comparer tout le temps les deux, j'aime mieux faire la démarche philosophique qui aboutit à l'être premier et au problème de la création. Et puis voir, au point de la foi, si je peux dire la même chose.